monde est un campus.
Avec Montassir Sari. Montassir, c'est un prénom qui n'est pas courant et qui a une histoire, je crois.
Oui, c'est un prénom qui est peu commun et qui a été porté par un militant au Maroc, qui a été tué sous le régime de Hassan II de façon assez atroce. Il vivait un peu clandestinement dans ce qu'on appelait la clandestinité politique pendant des années de plomb, c'est-à-dire des années de despotisme et d'autoritarisme de Hassan II. C'est entre les années 60, le début des années 60 jusqu'à fin des années 80. Et donc voilà, je porte le nom de ce militant qui était un ami de mon père et qui était militant d'une organisation qui s'appelle Servir le Peuple, qui œuvrait principalement dans les quartiers populaires à travers la conscientisation populaire, à travers la culture populaire, et qui dénonçait le régime dominant au Maroc, et qui a été attrapé et puis exécuté de façon très brutale. Donc c'est un hommage, et puis c'est aussi, je le considère aujourd'hui avec la réflexivité, comme un élément qui a contribué à ma politisation, parce que bien sûr, comme tout individu, j'ai demandé à mes parents la signification très tôt de ce prénom, qui signifie « victorieux » en fait, dans une traduction française.
À travers ce prénom aussi et cette histoire, ce qu'on entend, c'est que vous venez vous-même d'une famille militante. Vous avez grandi donc dans un environnement politique particulier.
Oui, c'est une famille de classe très moyenne, populaire, de père instituteur, mère institutrice. Populaire parce que les instituteurs au Maroc ont subi un déclassement extraordinaire pendant les dernières décennies. Mon père était un militant de gauche dans l'organisation que je viens de signaler, Servir le Peuple. Ma mère aussi, elle est militante principalement en fait dans un syndicat, la CDT. Et donc oui, c'est des militants, mais plus des militants en fait de base qui travaillent à des niveaux locaux et qui ont participé à un moment donné à l'encadrement du milieu de l'école publique au Maroc. Donc c'est une tradition pendant les années 60, 70 jusqu'aux années 80. La base des mouvements sociaux, notamment de gauche, était principalement l'école publique ou bien la fonction publique en général.
Et vous, est-ce que vous avez eu le sentiment très tôt de vous éveiller à la politique et d'avoir une conscience politique?
D'abord dans la cellule familiale, puisque les débats politiques sont assez présents au niveau de la famille. Le commentaire, par exemple, d'émissions télévisuelles. Plus tard, je vais intégrer en fait principalement l'école du journalisme au Maroc et j'intègre l'Union socialiste des forces populaires et notamment sa jeunesse, l'aile jeune de ce parti. Et j'ai participé à la fondation de plusieurs associations au niveau local dans la ville. J'ai vécu une grande partie de ma vie qui est Salé, une ville voisine de Rabat, la capitale administrative. Donc voilà.
Et c'était lié aussi à des lectures
Oui, certainement des lectures aussi, puisque mon père m'avait orienté plus ou moins vers certaines lectures, notamment les Russes, à savoir Dostoïevski, Tchekhov, Tourguniev, Pushkin ou autres écrivains et romanciers russes, Maxime Gorki bien sûr. Et puis ensuite, une ouverture sur des écrivains français dès mon année de baccalauréat, notamment Albert Camus et Jean-Paul Sartre en particulier. Donc c'est une ouverture bien sûr sur des thèmes politiques, sur l'action politique et sur un univers de révolte et de révolution avec un mélange aussi d'absurde, mais où l'engagement avait un sens dans les écrits de ces auteurs. Mais aussi la musique, puisque dans la maison on va privilégier plus une musique qu'on dit en fait engagée ou révolutionnaire, de Marcel Khalifa, Fayrouz ou bien d'autres chanteurs qui ont accompagné les mouvements de résistance en Palestine ou bien dans le monde arabe avec l'élan du panarabisme pendant les années 50 jusqu'à la fin des années 80.
Alors vous, une fois que vous avez passé l'équivalent de votre baccalauréat, vous avez décidé de vous inscrire dans une école de journalisme.
Oui, il n'y a pas énormément de choix pour les étudiants littéraires. Moi, je faisais partie un peu des élèves qui ont eu leur baccalauréat avec plutôt une bonne note qui m'a permis de passer le concours et d'intégrer l'école de journalisme où j'ai fait 3 ans mes études. J'ai pas terminé jusqu'à la 4e année, c'est-à-dire l'année du diplôme, puisque j'ai été très vite engagé de façon assez soutenu dans les mouvements sociaux, dans la politique, et puis j'ai presque laissé de côté les études pendant un moment et pendant 2-3 années, notamment avec l'émergence du mouvement du 20 février et avec l'émergence aussi d'autres associations politiques où j'étais impliqué de façon assez capitale. Mais plus tard, je vais continuer les études ici en France. Je vais opter pour des études universitaires en France.
Vous avez parlé tout à l'heure de ce mouvement du 20 février. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous en 2011?
Oui, le mouvement de 20 février est né dans le sillage du printemps arabe, quelques mois après la révolution tunisienne et égyptienne. Les militants qui étaient déjà présents sur le terrain commençaient à mobiliser et penser une action politique pour sortir en fait des débats qui étaient principalement concentrés dans des lieux clos, dans des espaces assez restreints, c'est-à-dire les partis politiques, pour porter le débat au milieu de la rue. C'est-à-dire, il ne s'agit pas en fait d'une génération spontanée ou bien d'une jeunesse qui s'est découverte du jour au lendemain, militante suite à une vague ou bien un effet domino qui a commencé en Égypte ou en Tunisie et qui s'est installé soudainement à travers les réseaux sociaux ou bien à travers les chaînes télévisuelles dans des pays comme le Maroc. Loin de ça, les gens qui étaient au terrain le jour du 20 février et puis pendant plus de 2 années de manifestations publiques de façon presque quotidienne dans la rue, sont des gens qui appartiennent auparavant à des structures militantes. C'est un travail de longue haleine qui est mené à travers des transmissions de génération en génération. Mais la particularité du 20 février, c'est qu'il a pu, pour une première fois, rassembler deux mouvements qui ont été, dans le passé, du Maroc, plus ou moins antagonistes, c'est-à-dire les mouvements islamistes et les mouvements de gauche. C'est la première fois qu'on va les voir rassemblés sur des revendications politiques nationales, c'est-à-dire qui parlent du Maroc, c'est-à-dire la réforme constitutionnelle, la revendication d'une monarchie parlementaire, et puis des revendications plus d'ordre social et syndical dans le Maroc actuel.
Alors, quel a été votre rôle à vous, Montassir?
Moi, j'étais en fait principalement présent au niveau d'un groupe de jeunes qui avait pour rôle de rapprocher entre les différentes dynamiques composant ce mouvement, c'est-à-dire de faire des allers-retours entre à la fois les socialistes et les mouvements islamistes, ça d'un côté. D'autre côté, c'était en quelque sorte de prendre la parole, c'est-à-dire tout mouvement, surtout quand il a des revendications très hétérogènes, il y a toujours un rôle de, entre guillemets, de leader d'opinion, c'est-à-dire quelqu'un qui serait capable de vulgariser la revendication politique au sein du mouvement.
Selon vous, il y avait une véritable cohésion entre ces deux groupes?
En fait, il y avait ce qu'on appelle au sein du mouvement une charte de revendications communes. La revendication de la monarchie parlementaire, une réforme du service public et une lutte contre une privatisation ravageuse aujourd'hui au Maroc. Et sur ce plan, il y a un rapprochement énorme entre les différentes composantes du mouvement. Par contre, pour certaines questions, très vite, les divergences vont. Par exemple, la question des libertés individuelles ou bien la question de la femme. Cela, je crois que c'était la principale problématique que nous avions rencontrée au sein de ce mouvement.
Pourquoi est-ce que vous avez voulu en 2012 continuer vos études en France? Pourquoi ce choix?
En fait, ce choix vient principalement d'un sentiment de blocage politique au Maroc. C'est-à-dire que pour une fois, moi et plusieurs camarades qui rêvions à un moment donné de mobiliser les gens dans la rue, ça s'est réalisé en quelque sorte. Avec le 20 février, nous sommes arrivés à répondre présente à une jeunesse qui aspire au changement au Maroc. Sauf qu'une fois sur le terrain, nous butions énormément à une capacité d'analyse de la société marocaine. C'est-à-dire que nous avons commencé à sentir qu'il y a une certaine ruse de l'histoire qui se joue dans le cadre du Maroc. Il ne suffit pas, dans un pays comme le Maroc, d'installer un processus démocratique. Au contraire, aujourd'hui au Maroc, on peut parler dans l'espace public autant qu'on le veut. On peut revendiquer dans la rue sans qu'il y ait forcément énormément de répression. Bien sûr, il y a la répression, mais très loin de cette répression systémique des années de plomb. Sauf que c'est insuffisant. Pourquoi ? Parce que tout simplement, nous assistons à une privatisation qui condamne une grande partie des couches populaires à une misère disqualifiante. Et pour moi, j'avais ce sentiment de ne pas vraiment... ce sentiment de la nécessité de m'outiller intellectuellement pour pouvoir à la fois comprendre ce qui se passe et penser une action collective et une action... Et pour moi, la question de la formation était très nécessaire, en fait, pour moi.
Donc, vous avez choisi de vous inscrire en sciences politiques.
J'envisage une thèse en sciences politiques et en sociologie qui devrait porter sur les mouvements sociaux au Maroc et principalement sur la différence entre les mouvements de gauche et les mouvements islamistes et voir comment, en fait, les carrières militantes peuvent converger, c'est-à-dire comment des gens... provenant des fois et souvent des mêmes milieux sociaux, peuvent être soit dans la mouvance islamiste, soit dans la mouvance de gauche, ce qui m'amène à étudier les caractéristiques de chacun de ces mouvements. En fait, en Europe et en Occident, on a eu toujours tendance à penser le clivage gauche-droite, sauf qu'au Maroc, on peut trouver par exemple des mouvements islamiques, mais qui sont communistes ou socialistes. Au Maroc ou dans la région arabe ou en Iran ou ailleurs, c'est-à-dire des mouvements qui s'inspirent de la religion, mais qui mettent la question sociale au cœur de leurs revendications.
Et vous, Montassir, quel est votre regard sur la place de la religion au Maroc ?
La religion a toujours joué un rôle très divergent, c'est-à-dire qu'on va voir pendant les années de plomb, et même aujourd'hui, la monarchie a une assise religieuse, le roi c'est le commandeur des croyants, mais la religion a joué aussi un rôle très déterminant dans la lutte pour l'indépendance du Maroc, c'est-à-dire que le mouvement national au Maroc s'est appuyé énormément sur la religion pour mobiliser le peuple marocain contre la colonisation française avec une religion réformée, une religion de la justice sociale. Moi en fait je suis plutôt dans une optique actuellement compréhensive, mais je suis complètement contre cette stigmatisation de l'islam politique. J'appelle à une réforme du discours religieux, non pas pour qu'il laisse complètement de côté la question religieuse, j'appelle plus à prendre de la religion tout ce qui est en faveur de la justice sociale au Maroc et tout ce qui est en faveur d'un changement démocratique au Maroc. Et je comprends complètement aussi la radicalisation de mouvements islamistes qui sont liés à une dynamique internationale, d'hégémonie internationale, qui mène la guerre à des cultures particulières au nom d'un universalisme hégémonique. Et ce sont les idées d'un certain consensus de Washington, c'est-à-dire d'une libéralisation qui participe à creuser les inégalités des populations du Sud et dans la région.
Alors, une fois que vous aurez fini votre thèse, quel sera votre objectif ?
Je continue en fait à nourrir un rêve d'une action politique, mais une action politique menée principalement au Maroc, tout en ayant bien sûr des liens avec là où il y a dans le monde cette volonté de s'émanciper du joug de la privatisation et du marché. Mon idéal, c'est bien sûr de continuer dans une lutte avec un nouveau programme, avec une nouvelle approche, une approche qui réconcilierait avec les revendications de la reconnaissance des différences, différences linguistiques, différences ethniques, différences sexuelles, différences régionales, etc. Ce sont des luttes bien sûr centrales, mais pour moi, ce sont des luttes qui doivent être reliés à la lutte pour la redistribution. Si j'emploie un jargon marxiste, je dirais une revendication de classe.
Mais alors ça consisterait en quoi ? Qu'est-ce que vous, concrètement, vous aimeriez faire ?
Une lutte pour la mise en place de politiques sociales qui seraient en faveur des populations les plus défavorisées, une lutte principalement pour le service public, pour l'école publique qui est en pleine crise aujourd'hui au Maroc face à une montée des écoles privées, une lutte pour la santé publique et pour l'hôpital public qui est complètement abandonné au profit des cliniques privées.
Mais ça veut dire en vous engageant dans un parti politique ou en reprenant la casquette de journaliste politique
Principalement en s'engageant dans des partis politiques et dans de nouvelles associations. Mon idéal type serait un militant organique à la Gramsci, ou bien, c'est-à-dire quelqu'un qui à la fois milite politiquement, mais qui au sein du milieu politique vulgarise les nouveaux outils à la fois d'analyse et d'action politique.
C'est ce que vous aimeriez être?
Oui, j'espère.
Le Monde est un campus. Une émission de Céline Duchesnay sur France Culture+.